savoir où tout laisser avec sagesse, sagement, pouvoir l'investir comme il faut, pouvoir les garder à la banque, hein, et pouvoir faire profiter cet argent pour que cet argent nous rend heureux et pour que cet argent nous fait mieux, non? De la même chose, je pense qu'on doit penser avec le temps. Quand on a beaucoup de temps, comme c'est le cas maintenant, on doit le savoir organiser. Et ça, c'est une chose qui nous parlait beaucoup les maîtres à Rome, de nous faire un agenda, de pouvoir maîtriser notre temps, de pouvoir savoir de façon assez précise et en quoi on utilise notre temps. Ça, c'est important et on doit savoir le faire. Et pour ça, on pourra profiter de notre temps pour faire plein, plein de choses différentes. Une chose importante avec le temps, c'est qu'on a tendance à penser que les choses urgentes sont plus importantes. Mais c'est toujours l'important. Les choses importantes sont toujours d'abord. Et après, il y a les choses qui sont urgentes. Et pour nous, les choses les plus importantes, c'est la gnosis, c'est nos pratiques, c'est notre prière. Et ça, c'est la première chose qu'on doit faire dès qu'on se lève, dès qu'on se lève le matin. On doit essayer de nous lever avec le soleil et avec la lumière et nous coucher avec la lumière. Et quand on se lève avec la lumière de l'aube, faire nos pratiques et nous connecter avec la force de notre être, ça va nous aider beaucoup. Si on fait ça, et après on va bien organiser notre journée pour faire tout ce qu'on doit faire. Et même si on doit nous donner des moments de repos, il faut qu'ils soient vraiment des moments de repos, qu'on repose. Je pense que bien maîtriser notre temps, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit après essayer de transporter à notre vie quotidienne. Une fois qu'on a sorti d'ici, essayer de garder nos routines, c'est quelque chose qu'on doit faire. Nos routines de travail, et il doit continuer de la même façon qu'on a fait ici. Et pour le thème d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un thème que les maîtres ont donné à Paris le dimanche matin. C'est un message important qu'il nous a fait passer. Et le message s'appelle l'incarnation du Christ. Et c'était un message, en fait, que le maître Aaron nous a passé. Et il nous parle de tous les différents processus qui font en nous la connaissance de l'enseignement de la gnosis. Et comment petit à petit, on va incarner cette force que c'est la force Christ. Non? La première chose qu'on va voir, c'est que le Christ lui-même, c'est un message. Et c'est des paroles qu'on a écoutées. C'est des paroles qui nous sont interpellées, qui sont percutées à l'intérieur de notre cœur et qui sont imprégnées notre conscience. Et ça, c'est la première expression du Christ, non? Nous dit le maître Aaron que l'expression du Christ, que c'est le message, va rentrer dans notre entendement et dans notre mental. Il va rentrer dans une chose que lui, il appelle la tour de Babel, la tour de feu. Que ça, c'est notre mental. Notre mental, toujours en train de cogiter. À l'intérieur de notre mental, ce message, il va se convertir dans quelque chose d'intellectuel, dans une compréhension intellectuelle. Il nous dit que dans notre monde mental, dans cette tour de Babel, avant, il y avait deux lampes qui étaient allumées. Et qui fait ce que notre mental, c'est un mental inspiré, un mental intuitif et un mental qui a une perception supérieure. Ces deux lampes sont les deux chakras, les chakras Sahasrara et les chakras Ajna, qui correspondent à la glande pinéale et à la glande pituitaire, et qui correspondent aussi, les chakras Sahasrara, à l'église de Laodicea et les chakras Ajna à l'église de Philadelphie. Bon, nous dit qu'une des glandes, c'est masculin, la glande pinéale, qui va avoir la force de Mars, et la glande pituitaire, c'est féminin, il a la force de Vénus. Et c'est tous les deux qui éveillent, c'est ce qu'on appelle la les et la lumière intérieure. Ce sont des lampes d'éveil de la conscience. Mais aujourd'hui, ces deux lampes sont endormies et ces deux lampes sont soumises sous la force de notre ego. Et on peut dire que maintenant, ces deux lampes appartiennent à la subconscient de l'ego. Et ça, c'est malheureusement l'état de notre monde mental. Et ces deux lampes qui sont le mental brillant et inspiré et intelligent et éveillé de quelqu'un, maintenant sont le mental subconscient et égoïste de notre ego. Et on voit que notre ego, il est très soumis pour une autre chose que c'est le temps. Et les concepts du temps, les perceptions du temps et toute la programmation du temps. Toutes ces choses qui appartiennent au monde de notre fausse personnalité, qui à l'intérieur de notre cerveau, ils ont fait des concepts qui sont comme comme une prison qui va renfermer notre esprit. Et c'est pour ça que à l'intérieur de notre monde mental qui n'est pas préparé, et c'est un monde lunaire et froid, c'est là-bas qu'il va arriver une connaissance, que c'est le message psychique. Et ça peut avoir que déjà ici, il y a une certaine lumière, mais il n'y a pas l'endroit pour que ces germes qui est le message puissent grandir. Ce n'est pas dans le monde mental que ces germes vont grandir. Il faut les défaire, descendre petit à petit. Et la première chose qu'il va faire, c'est descendre de cet message du monde mental à notre cœur. Nous dit le maître que une des choses qui va faire vraiment changer tout, c'est quand dans ce message on comprend qu'on doit retenir la perte de l'énergie mystique solaire, que c'est la perte de notre énergie sexuelle. Et ça va faire petit à petit un changement de révolution et de vibration dans notre glande endocrine. Et en commençant pour nos glandes sexuelles. Nos glandes endocrines vont se connecter à deux nadis qui avant n'étaient pas actives, qui sont les nadis Ida et les nadis Pikala. Ce sont deux nadis qui sont la fonction de faire l'énergie centripète, de faire que l'énergie monte et qui ascende. Ils sont comme un pouvoir de succion sous l'énergie. Et ces deux canaux vont commencer à s'activer et prendre l'énergie de nos organes sexuels et la faire remonter le long de la colonne. Et ils vont faire aussi mettre en contact l'air qu'on respire avec l'énergie. Chaque fois qu'on va respirer pour les narines, ces narines sont connectées aux nadis, qui sont aussi connectées à nos organes sexuels, tout le long de la colonne. Ça, on peut dire qu'il y a trois forces qui vont se connecter. Il y a d'un côté l'imagination, parce que c'est l'imagination qui va faire une projection de l'énergie. De l'autre côté, il y a la volonté. Et de l'autre côté, il y a la respiration. Ces trois choses-là, respiration, imagination et volonté, vont faire qu'il y a un contact entre l'air qu'on respire l'énergie des organes sexuels à travers les nadis. Les nadis vont faire monter l'énergie tout le long de la colonne. On dit que ces deux nadis sont les deux témoins en face des trônes de Dieu. C'est comme ça que nous dit la Bible et que nous dit aussi le Maître. Bon, on va faire une petite pause ici et on va vous laisser réfléchir sur tout ce qu'on a parlé. On va passer à la publicité. Et après, on continue ici en Radio Himalaya.
Nous allons faire une pause. Ne partez pas, nous allons revenir très vite. Merci.
Bon, on continue avec notre thème ici. Bienvenue tous à Radio Himalaya. C'est Daniel Contreras. Et on va parler depuis Lyon. Et aujourd'hui, on est en train de parler du thème de l'incarnation du Christ. C'est un thème que les maîtres avant nous a donné le jour 1er mars de 2020 à Paris. C'était un dimanche matin. Et on est en train de parler de comment il y a deux canaux que nous savons, Nadi Ida et Nadi Pingala, qui sont deux canaux importants. Il y a un des canaux qui est lunaire et l'autre qui est solaire. Et chacun va faire monter l'énergie petit à petit. On dit que cette énergie va commencer à activer les différents chakras petit à petit. Et même si l'activation totale se fait avec le canal central, qui c'est Sushumna. Mais cette énergie-là va commencer déjà en train de travailler sur les glandes qui sont tout le long de le voyage. Et cette énergie va faire que toute l'énergie, tous les atomes christiques vont monter du coccyx jusqu'à la glande pinéale. Nous parle le maître que ça c'est comment un pont qui va connecter la terre et le ciel. La terre, c'est notre coccyx. Et le ciel, c'est nos glandes pinéales, qui c'est la partie la plus supérieure, la glande qui nous connecte à la partie plus élevée. Et petit à petit, on peut dire que ça, c'est un mouvement passif, un mouvement qui va connecter une énergie lourde avec une énergie plus légère. Mais il y a un deuxième pont qui va se faire, que c'est le pont qui nous connecte de la matière chaotique à l'esprit. Ça, c'est des mots littéraires qui nous ont le maître. La matière chaotique à l'esprit. Et nous dit que ça, dans tout cela, il y a une profondeur ésotérique et ultra-physiologique. Bon, normalement, cette énergie, on avait dit déjà que cette énergie doit être imprégnée par l'air et par la force de la volonté. Et petit à petit, cette énergie va devenir spirituelle, va se convertir en spirituelle. Et petit à petit, ce mental va descendre pour se centrer dans le cœur. Et dans le cœur, il habite une partie de l'énergie qui c'est notre mère Kundalini. Vous voyez comment chaque fois qu'on va transmuter, l'énergie va finir dans le cœur. C'est là que la mère Kundalini va se renforcer avec toute cette énergie. Et la mère Kundalini, qui habite aussi dans notre cœur, la mère divine, elle va donner dans la personne qui est en train de transmuter une qualité. C'est une des qualités de la mère divine. Et la qualité qu'il va nous donner, tout d'abord, c'est la compréhension. La compréhension, c'est une qualité divinale qui provient de notre mère divine. On peut dire que ces personnes qui sont en train de descendre à leur cœur et en train de toucher à la mère divine, et on descend au cœur avec notre esprit de la transmutation. Et la mère est. Et on peut dire aussi et ça c'est un peu mystique et un peu mystérieux, dès que les messages qu'on avait écoutés tout d'abord et qui étaient mentaux, maintenant, cet message a déjà petit à petit descendu jusqu'à l'énergie sexuelle. Et que cet message est en train de faire un processus de transmutation dans notre énergie. L'énergie contient les messages. Ça, c'est un mystère. L'énergie est imprégnée avec les messages. On peut faire comme une relation entre l'énergie sexuelle, qui c'est l'Esprit Saint, et le message, qui c'est le Christ, non? Il y a une fusion de les deux logos, le logos christique et le logos de l'Esprit Saint. Il nous dit le maître que ça fait comme une sublimation de messages, de telle façon de que avant on avait les corps de les messages. Les corps de messages, c'est un corps mental, c'est un corps intellectuel, et maintenant on est en train de trouver l'âme de la doctrine. Avant, les corps de la doctrine, c'est L'entendement, notre mental, le concept, mais l'âme de la doctrine, c'est quelque chose qu'on obtient qu'à travers la pratique et qu'à travers la transmutation. Et c'est une qualité qui nous donne la mère divine. C'est une compréhension qui nous donne la mère divine. Et il y a des milliers d'éléments qui vont se commencer à activer quand la personne commence à se sensibiliser avec le premier Christ qui va grandir en nous, que c'est le Christ fait message. Ça, c'est la première façon de l'incarnation du Christ. Et pour cela, pour l'incarnation de ce Christ fait message, c'est tout à fait un travail de transmutation. Ça, c'est fou parce qu'on commence à penser, pour nous, le message du Christ, c'est peut-être réfléchir à tous les livres, étudier tous les livres, et ça nous donne nos dilemmes que c'est important. Il faut les lire, il faut les étudier. Mais il faut donner à cet enseignement une qualité spirituelle, et la seule façon qu'on a pour le faire, c'est d'un côté la pratique et de l'autre côté la transmutation. Et nous parle beaucoup de que le travail de l'homme et la femme, la chimie qu'ils font tous les deux, c'est un travail essentiel pour travailler cette incarnation du message du Christ. Et on peut dire que petit à petit, et il y a des valeurs conscientives, il y a des forces et des principes fondamentaux de la connaissance spirituelle qui vont s'imprégner et se cristalliser dans notre énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'endroit où on va garder tous nos bijoux, tout notre argent, toutes les valeurs conscientives. C'est là où on va garder tout. En fait, chaque fois qu'on fait un progrès spirituel, qu'on gagne de compréhension ou de valeur, on a besoin de garder ça quelque part. Et la l'endroit où on va garder tout, c'est notre énergie sexuelle. Tout ça va nous donner un élément qui nous allait mettre avant, que c'est l'élément d'échange. L'élément d'échange, c'est un élément qui nous fait une révolution. C'est comme un message révolutionnaire. C'est comme les messages qu'on peut écouter d'un leader et qui fait que ça déclenche la révolution française, non? Cet élément de change, c'est quelque chose de christique, révolutionnaire, et ça va faire une gestation de tout ça à l'intérieur de notre énergie. Petit à petit, va se produire un deuxième degré de cet élément christique en nous, que le maître Aaron appelle l'âme sentiente. L'âme sentiente, c'est une deuxième transformation. Il nous dit que cette énergie va passer par des notes. Il va monter de la note Fa à la note Sol, de la note Sol à la note La, et petit à petit va se cristalliser. C'est ce qu'on appelle l'âme sentiente. C'est l'âme qui est sensible. L'âme qui est capable de percevoir et d'être sensible à son extérieur, de pouvoir être sensible à la nature, à la beauté, le printemps, les fleurs, tout ça. Bon, et ça, c'était une transformation qui s'est faite dans toutes les molécules et dans toutes les cellules et dans tous les atomes de notre corps, petit à petit. On peut dire que le Christ, ça va imprégner partout, mais surtout dans notre énergie sexuelle. Il répète beaucoup que l'âme sentiente, c'est l'âme de la doctrine. Ça, on peut dire que la doctrine, ça fait partie intégrale de notre âme, qu'on est en train de faire grandir. Et la doctrine christique qu'on a écoutée, c'est comme une graine qui va grandir à l'intérieur de nous, qui petit à petit va former l'âme sentiente. Et ils vont nous faire rappeler, cette âme sentiente, notre passé, milliers et milliers de vies avant, quand nous étions des dieux ou des déesses, que nous savons encore pas tomber dans la génération animale. Et avant, on était connecté à notre père spirituel et à notre mère divine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver qu'on est plutôt connecté à une partie de la mère que c'est la mère nature inférieure. Mais nous, on doit petit à petit nous connecter avec notre père et avec notre mère. Petit à petit, cette graine qui est en train de grandir va se recouvrir comme ils font les perles. Et ça, cette partie-là s'appelle la perle séminale. Vous savez que dans les huîtres, quand il y a une petite graine qui va rentrer dedans, une graine de poussière, une graine de sable, et ça c'est inconfortable. Et pour isoler ces graines, les huîtres vont commencer à faire une sécrétion de nacre autour de cette graine de sable pour la recouvrir petit à petit en faisant des couches. De telle façon qu'à la fin, on a une perle. Mais cette perle-là, elle est née parce qu'il y avait un élément qui a déclenché la formation de la perle. Bon, l'élément qui, à l'intérieur de l'âme, déclenche la formation de la perle, c'est l'âme sentiente. Et autour de cette âme sentiente, qui est à l'intérieur de notre énergie sexuelle, toutes les couches d'énergie qu'on est en train de transmuter, toute l'énergie de la transmutation, font les petites couches et couches de nacre qui font la perle séminale. Notre perle séminale est formée pour toutes les transmutations qu'on a fait avec ces noyaux de notre âme sentiente. Et ça va faire des degrés de connaissances spirituelles, des degrés plus supérieurs de sagesse et une transformation cellulaire et moléculaire plus importante. Mais petit à petit, on comprend que la perle séminale, c'est comme un utérus qui va à l'intérieur former quelque chose d'autre. Et lui, c'est comme un endroit de gestation. C'est comme un coffre. Et à l'intérieur de cet endroit-là, va commencer à germer en partie de notre âme, qui c'est l'essence, la quintessence, la partie la plus subtile qu'on appelle l'embryon doré. L'embryon doré va commencer à grandir à l'intérieur de cet utérus qui a fait ces perles-là. Et il va commencer à grandir petit à petit comme un petit fœtus, comme une petite possibilité qui un jour deviendra un être vivant. Et petit à petit, cet embryon doré se va transformer dans une chose qu'on appelle le chrysanthème. So, imaginez-vous que le chrysanthème, c'est comme un tout petit enfant, un enfant doré qui est à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Et cet utérus, cet coffre et brillant, ça, c'est ce qu'il y avait à faire avant la perle séminale. En fait, le Christ intime, à l'intérieur de nous, c'est lui qui va faire tous les différents processus de notre chemin initiatique. Lui, il va commencer à grandir dans les chemins, dans les initiations des mystères majeurs. Dans la première initiation, la douzième, la troisième, la quatrième, la cinquième, lui, il va commencer à éliminer notre ego, parce que c'est la partie révolutionnaire qui va nous impulser. Et surtout, va aussi grandir notre cœur comme une façon de nous connecter avec l'être. On peut dire que le Christ intime, il a une connexion avec l'être très puissante. Qui est le médiateur entre le Christ intime et l'être, c'est le cœur. Et c'est le Christ intime qui va commencer à grandir et grandir. Un jour, il deviendra un homme. Et un jour, il deviendra fort. Et ça, c'est un processus qui va commencer à se faire. L'incarnation du Christ, le Christ cosmique, s'appelle comme ça. Et à la fin de la dernière initiation de la première montagne, que c'est la septième initiation de mystère majeur. Quand on arrive à la huitième initiation de mystère majeur, on commence à incarner, c'est ce qu'on appelle les crises cosmiques. Bon, on va arrêter ici pour faire une deuxième pause. C'est très intéressant, vous allez voir. On vous voit après les annonces, après la publicité. Merci pour écouter Radio Himalaya.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Himalaya, la voix de France. Venez nous retrouver tous les mardis et jeudis à 18h pour écouter le programme des dames gnostiques, le rossignol chante l'âme.
Himalaya, la voix de France.
De nouveau à Radio Himalaya. On vous parle toujours aujourd'hui de l'incarnation du Christ, Daniel Contreras, ici. En fait, on a commencé à parler maintenant de cette partie du Christ qui est le Christ cosmique. Et le maître Aaron le parle à cette partie-là comme le Christ miséricordieux. Et lui, il appartient à la couronne séphilotique. Parce qu'on a dans la couronne séphilotique, on a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette partie-là appartient à ce qu'on appelle le Christ cosmique. Et une personne qui commence à déjà incarner ces forces-là, c'est une personne qui se commence à connecter avec l'humanité entière. Et ça, on peut considérer cette personne comme un véritable maître. Dans la septième initiation du mystère majeur, on voit que ces personnes qui sont incarnées les crises cosmiques se sont transformées. Ils sont devenus aux choses différentes. Le maître Samael, il a incarné les crises cosmiques le 27 octobre de 1953 au Summum Supremum Sanctuarium. Et c'était une cérémonie longue. Et après cette cérémonie-là, il parle et il se sentait différent. Et il disait qu'il se sentait double. Il disait tout le temps, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et voilà, en fait, ce processus l'a transformé de façon radicale. Il y a le maître Lakshmi qui a incarné ces crises cosmiques le 2 février de 1997. Et à ce moment-là, le Christ miséricordieux, le Christ cosmique, et c'est un Christ différent à notre Christ intime. Parce que le Christ intime, il est fait pour charger la croix de l'initiation. Et c'est la croix de notre karma, de nos souffrances, de nos épreuves, de nos compréhensions. Dans cette croix, il y a toutes les conséquences de nos mauvaises actions à nous. Mais le Christ cosmique, c'est quelqu'un qui charge en soi la croix de l'humanité, avec tous les poids des mauvaises conséquences de toutes les mauvaises actions de l'humanité entière. Et c'est pour cela que les personnes qui portent ces croix, c'est quelque chose de très dur. C'est dur pour eux, c'est dur pour son corps physique et pour sa vie. Et le maître Aaron nous dit que c'est à cause de ça, de que tous ces deux grands maîtres, ils sont, dans la dernière partie de sa vie, ils ont souffert aussi tant. Beaucoup, beaucoup. Et tous les deux sont morts dans des circonstances très compliquées au niveau de sa santé, au niveau de son corps physique. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de charger la souffrance, l'angoisse de l'humanité entière. À tel point de que le maître Lakshmi, il était toujours en train de parler de qu'il était inquiet pour l'humanité et que surtout il était inquiet pour les personnes qui étaient à la gnosis. En fait, il disait que chaque fois qu'un frère gnostique est en train de se dévier, en train de faire des erreurs, il est en train de tuer une partie en soi parce que il souffrait et il avait une souffrance à cause de ça. Et, en fait, il était connecté à chacun des membres de ce peuple et aussi il était connecté à l'humanité. Nous parle de que ces différentes parties de Christ, non? Qu'on a parlé, le Christ comme message, l'âme sentiente, la perle séminale, l'embryon doré, les crises intimes et les crises cosmiques, tout ça ne sont pas des crises différentes. C'est toujours le même Christ, avec des faces différentes. Mais c'est toujours le même Christ. C'est toujours la même énergie.
La même énergie du premier logos,
avec la mission de toucher le corps humain et de le faire de nouveau retourner. Si l'esprit de la vie, que c'est le troisième logos, il est fait pour faire grandir la vie, pour donner forme à la vie, pour que la vie s'effleurisse, pour que la vie se reproduise, le deuxième logos, il est fait pour que à l'intérieur de la vie, l'âme, il a envie de retourner. C'est révolutionnaire parce qu'il va être en révolution permanente. Il va essayer de toucher le cœur humain pour le faire retourner à la maison de son père.
On peut dire qu'au lieu de faire la division, on va aller vers la unité. On va rentrer à l'unité. Et bien si la vie est surtout l'ego,
il va vouloir toujours diviser et alourdir, que l'énergie soit plus lourde, plus matérielle. Le Christ, il va vouloir que l'énergie soit plus subtile, plus spirituelle. Il va toucher le cœur humain pour les faire monter. Et ça, c'est l'essence du Christ. Et c'est toujours la unité et c'est toujours l'amour. L'amour, c'est la clé fondamentale des messages du Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit petit à petit comprendre, de que plus ces personnes vont intégrer en soi la force du Christ, pour que c'est la force qui va les faire rentrer à ce qu'on appelle Dieu, plus ces personnes vont trouver que Dieu, il est partout. Dieu, c'est toutes les personnes qui sont autour de lui. Plus ces personnes qui vont être en connexion avec la force de Christ vont vouloir toucher le cœur de toutes les personnes autour de soi. L'incarnation du Christ cosmique, c'est un mystère très important. C'est un mystère qui a commencé avec le message. On peut dire qu'une personne qui devient un Christ cosmique, comme le maître Aaron, comme le maître Lakshmi, ou le maître Samael, ou comme Bouddha, ou comme Yeshua Ben Pandira, sont des personnes qui donnent toujours un message. Et ces messages qu'ils sont en train de donner sont des petites graines qui un jour pourront grandir et devenir aussi des nouvelles Christ. On peut dire que ce message, c'est une façon de reproduire la force christique révolutionnaire qui va faire que les personnes qui sont dans la rue de Sansara un jour s'éveillent pour vouloir se révolutionner et sortir de la rue de Sansara. Ça, c'est la mission du Christ. Bon, pour finir aujourd'hui, le thème qu'on est en train de parler, je voudrais vous donner une petite pratique que nous a donné le maître Aaron. Bon, pour cela, et pour cette pratique, on va d'abord essayer de nous relâcher, de nous connecter à l'intérieur de notre cœur. Nous dit le maître Aaron qu'à l'intérieur de notre cœur, on va imaginer une petite maison. Une maison agréable, avec un petit jardin. Et qu'à l'intérieur de cette maison, il y a une mère amoureuse qui nous garde. Elle attend toujours son fils. Ça fait longtemps qu'il est parti, mais elle attend toujours que son fils revienne. Et elle, amoureuse comme mère, va le donner à son fils tout ce qu'il a besoin. Et le maître Aaron nous dit que nous, on doit se sentir ce petit enfant qui revient de nouveau à rencontrer sa mère, et que sa mère va le recevoir avec les bras ouverts, et qui va le faire s'asseoir pour lui donner la meilleure nourriture, pour lui donner tous les soins possibles, avec tout l'amour possible, parce que ça faisait longtemps, longtemps qu'elle attendait. C'était parti en nous qu'elle attend toujours, c'est son Christ intime, que ça fait longtemps qu'elle est partie en voyage, et que nous on doit de nouveau faire grandir en nous, et que c'est parti retrouve la mère divine. Nous dit maintenant le maître Aaron qu'on doit parler avec sa mère divine. On doit lui dire « Mère bénie, aide-moi, impulse-moi, protège-moi, avec les pouvoirs qui te sont conférés. » Et qu'on soit avec cette prière, on doit nous concentrer de façon profonde, extraordinaire, le temps qui soit nécessaire. Mère bénie, aide-moi, impulse-moi, protège-moi, avec les pouvoirs qui te sont conférés. Mère bénie, aide-moi, impulse-moi, protège-moi, avec les pouvoirs qui te sont conférés. Après, on va faire une deuxième concentration dans le coccyx. Dans le coccyx dans lequel il y a l'énergie sexuelle, qui est en train de bouillir comme un feu liquide. Et ici, on trouve l'essence du sacratissime Esprit Saint, la force de la mère divine Kundalini. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a la graine de ce qu'on appelle le Christ, que c'est le message qu'on a parlé, qui est en train de grandir, comme une lumière qui se trouve endormie à l'intérieur de l'énergie. On dit que cet Christ qui est né de le message va nous donner ce qu'on appelle les osculos sacrés de la sagesse, qui c'est comme le baiser sacré de la sagesse. Cette partie-là va nous donner la sagesse. va nous donner connaissance. Une fois qu'on est bien concentré et on voit ce pouvoir igné de la mère divine Kundalini, ce pouvoir igné qui provient de l'effet liquide de l'intérieur de la terre dans lequel on est en train de trouver la gestation de notre Christ qui un jour deviendra le Christ intime. Cette force de notre âme qui c'est comme notre soleil intérieur. Après, on va se concentrer dans notre plexus solaire, dans lequel on va sentir le chakra Manipura, qui c'est comme un petit soleil que on retrouve dans notre deux doigts ou trois doigts au-dessous le plexus solaire. On retrouve cette chakra. Et bien concentré ici, on va nous connecter avec la force du Sacratissime Esprit Saint. Cette force-là, c'est une force qui est connectée évidemment avec le coccyx et avec le cœur. C'est une force de sagesse et de connaissance. C'est une connaissance supérieure et qui va nous permettre d'ouvrir cette connexion télépathique qui nous connecte à tous. C'était Sacratissime Esprit Saint qui, en ressent comme un feu, le maître Samael, il imaginait comme un soleil et une croix à l'intérieur de son plexus solaire. Et quand le soleil se levait le matin, le maître Samael imaginait ce soleil qui se sentait tout à fait dans son plexus solaire. Chaque fois qu'on va sentir le plexus solaire, on le ressent comme un feu igné. Et après, pour finir, on va nous connecter à notre cerveau, dans lequel il y a ces deux lampes qu'on a parlé, la glande pinéale et la glande pituitaire, les chakras Sahasrara et les chakras Ajna. Et là, on retrouve la force du Père, qui est une force d'illumination et de lumière. C'est une force qui va être contraire à le mental endormi. Nous dit le maître que quand nous avons un mental trop rigide, avec trop de pensées, on se dit mentalement, mon Père, il est dans mon mental, mon Christ, il est dans mon cœur, mon Esprit Saint va me conduire vers la vie qui n'a pas fin. Mon Père, il est dans mon mental. Mon Christ, il est dans mon cœur. L'Esprit Saint me conduit jusqu'à la vie qui n'a pas fin. Mon Père, il est dans mon mental. Mon Christ, il est dans mon cœur. L'Esprit Saint me conduit jusqu'à la vie qui n'a pas fin. Bon, frères et sœurs, avec cet enseignement du Maître Aaron, je vous laisse. Merci beaucoup pour écouter Radio Himalaya. Toutes les personnes qui sont des doutes, pourraient me contacter en privé sur WhatsApp ou bien contacter directement à Radio Himalaya pour faire des questions. Et on est très content qu'on peut toujours partager cet enseignement du maître Aaron, que évidemment ça fait aussi une semence, c'est une petite graine qu'il nous a laissé avec l'espoir de qu'un jour deviendra à l'avenir des Christ intimes de quelqu'un. Bon, merci beaucoup, que la paix soit avec nous tous. Au revoir.
Le monde des nymphes. Une matinée tranquille et sereine à la campagne. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient avec joie. L'ours dansait, heureux, le chevreuil sautait. Le dauphin était submergé dans les eaux merveilleuses de la mer. Quand, tout à coup, on entendit des coups de fusil. C'étaient les chasseurs. L'un disait : « Je suis un héros. Vous avez vu ma précision ? J'en ai encore pour ma collection. » Et un autre chasseur disait :
pour la peau de l'ours et celle du tigre, on m'offrira beaucoup d'argent. »
Les chasseurs continuèrent leur chemin, et à chacun de leurs pas, ils laissaient derrière eux des pleurs, de la douleur et de la désolation. Au plus profond de la forêt, on entendait le chant des oiseaux, comme une prière adressée à l'espace. Soudain, un bruit assourdissant se fit entendre. C'était le bruit d'un avion qui laissait tomber un petit homme dans un parachute. C'était un écologiste qui dit, en touchant terre, « Voilà un atterrissage parfait !»« Bon, allons maintenant faire des recherches. » Il peut se faire que dans ces parages, il y ait une âme à qui demander les mystères que renferme cette forêt. Il était très difficile pour l'homme de pénétrer dans ces lieux où seule la nature commande. Mais, muni d'inspiration, de foi et de volonté, cet homme s'engouffra peu à peu dans la broussaille. Il observait tout, sans rien trouver. De longues heures s'écoulèrent et la nuit arriva. L'écologiste s'exclama. « Mon Dieu, aide-moi! Tu sais pourquoi je suis venu. Donne-moi des forces et de la volonté pour y parvenir. » L'homme, fatigué d'avoir tant marché, fut surpris en écoutant un cri déchirant et des pleurs entrecoupés. Soudainement, l'homme s'éveilla, affolé. Il se mit debout au plus vite, voulant savoir d'où venaient ses plaintes. Et il se trouva devant une étrange créature qui lui dit « J'ai accompagné les créatures qui habitent dans cet endroit, mais j'ai l'âme déchirée, parce qu'ici on lutte pour survivre. « Pourquoi te sens-tu désolé et triste ?» demanda l'écologiste. Et la créature étrange répondit « Nous avons été maltraités. Nombreux de mes compagnons sont morts, laissant leurs enfants seuls et affamés. » Elle se tut et continua à pleurer, remplie de douleur. « Qui vous persécute jusque dans ces lieux ?» demanda l'écologiste. La créature étrange mit quelque temps à répondre et dit « Nos frères aînés et tous ceux qui te ressemblent, toi, tu es l'un d'eux. » Et à nouveau elle se mit à crier et à pleurer. L'écologiste voulut la tranquilliser en lui disant « Moi, je ne vais pas te faire de mal. » Cet homme était si merveilleux qu'il avait compris que cette planète est le royaume de la nature, que seulement grâce à elle, nous pouvions continuer à vivre, et qu'il fallait la sauver. Cachées, les nymphes murmuraient entre elles, disant « Qui est-ce ? » L'une d'elles répondit « C'est un homme, c'est un homme ! Il vient nous faire du mal ? Qui pourra nous sauver ?» L'écologiste écouta les voix des nymphes, qui étaient angoissées par sa présence, et demanda à la créature étrange « Parle aux nymphes, dis-leur de ne pas avoir peur. » L'homme savait qu'il était en train de s'engager auprès d'elle et qu'il ne fallait pas les décevoir. Après un moment de silence, il commença à écouter les appels de la nymphe, convoquant toutes les créatures. Dans leur langue, on pouvait comprendre. Reine des bois, nymphes de la campagne, animaux de toutes les espèces, quelqu'un est venu nous offrir son aide. Des créatures de différentes espèces apparurent. Elles disaient d'une voix entrecoupée : J'étais un ourson joueur qui allait à côté de sa mère, quand le chasseur est arrivé et m'a tué.
J'étais un chevreuil qui m'amusait en traversant les plaines à grande vitesse. Mais l'homme chasseur m'a tué. J'étais un dauphin qui jouait au milieu des eaux. J'ornais le paysage avec mes compagnons. Mais une bombe a éclaté et nous a tous tués.
L'écologiste, étonné d'entendre toutes ces créatures, demanda :
Qu'en est-il de ces créatures qui n'ont plus de corps physique ?
Vivent-elles dans l'au-delà ? S'adressant à l'un d'eux, il demanda :
Que vas-tu faire maintenant ?
La créature lui répondit :
Je ne sais pas. Demande à ma Deva, car moi aussi, je veux le savoir.
L'écologiste s'adressa à la Deva et lui demanda :
Que va-t-il arriver à l'ourson joueur ? Aura-t-il un nouveau corps physique ?
La Deva répondit :
Il se peut que, oui, bien que son espèce soit en train de disparaître et qu'il ne puisse pas retourner dans une autre espèce.
L'écologiste demande à nouveau :
Que va-t-il arriver à l'agile chevreuil ?
La Deva répond :
Impossible. Il ne peut pas retourner. Son espèce a disparu.
Et que sera-t-il de l'ourson joueur ?
Il se peut qu'il y retourne.
Et que sera-t-il du dauphin ?
Il se peut qu'il retourne. Mais les fleuves et les mers sont contaminés. Et les hommes sont en train de tout détruire.
Avec une grande tristesse, la Deva s'approche un peu plus de l'écologiste et lui dit :
Tant que les frères aînés, tant que l'homme, ne cesse de nous persécuter, il sera très difficile, parce qu'il n'y a pas un lieu sûr qu'ils ne détruisent pas.
Ils continuaient leur conversation quand, tout à coup,
la forêt tressailla. Les nuages s'amoncelèrent. On entendit des tonnerres et la forêt se mit à gronder comme voulant dire :
Nous allons protéger les bois afin que l'homme ne continue pas à les détruire. L'écologiste pensa :
Si l'homme ne tuait pas la vie dans ces endroits, ce serait tellement différent.
Et il se mit à leur demander : Voulez-vous que je sois de votre côté ? Ce fut alors que l'endroit se remplit de parfums de fleurs. Un air pur y circulait. Les arbres bougeaient, voulant dire qu'ils étaient heureux. Les fleurs ouvraient leurs pétales. On entendait le chant joyeux des oiseaux. L'écologiste réfléchissait :
Étant enfant, j'entrais dans le bois et je sentais ces parfums. Maintenant que je suis grand, ces phénomènes se sont éloignés.
Une forte voix qui représentait le bois lui dit : Quand tu étais enfant, tu étais innocent et pur. Quand tu fus grand, parce que tu te mis à imiter les autres, tu nous as persécutés et tu nous as tués. Aujourd'hui, puisque tu as tué ces instincts, tu retournes à nous et nous allons vers toi. En conséquence, dis à tes frères, les hommes, que tant qu'ils n'auront un mental comme celui des enfants, ils ne connaîtront pas les mystères du royaume des cieux. À ce moment, toutes les créatures et les nymphes s'approchèrent de l'endroit où était assis l'écologiste. Et avec grande joie, elles constatèrent qu'il y avait encore des hommes qui représentent et aiment la mère nature. D'une seule voix, avec une grande joie, elles chantèrent :
Vive la campagne ! Vive la forêt !